Guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 2, scène 6. Le vieux comte retourna chez lui. Pétia et Natacha lui promirent de le suivre de près. La matinée étant encore peu avancée, on en profita pour aller plus loin. On lâcha deux chiens dans un épais taillis au fond d'un ravin, et Nicolas, de sa place, eut l'œil sur tous les chasseurs. En face de lui, son homme, enfoncé dans un fossé, se dérobait derrière un buisson de noisetiers. À peine lancés, les chiens donnèrent de la voix à intervalles rapprochés, et peu d'instants après, la trompe annonça la vue. La meute se précipita dans la direction des prairies, et Nicolas, attendant que le renard parût dans la plaine, vit les piqueurs au bonnet rouge se lancer au galop en avant. Son écuyer venait de découpler ses chiens lorsqu'il aperçut au même moment un renard roux, bas sur jambes, d'une physionomie particulière, qui fuyait à travers champs. La meute ne tarda pas à l'entourer. Balayant la terre de sa queue, le renard se mit à courir en décrivant des ronds qui se rétrécissaient de plus en plus, lorsqu'un chien blanc, puis un chien noir, se jetèrent sur lui. Tout se confondit dans la mêlée, et les têtes de chiens, tournées vers leur proie, formèrent à leur tour un cercle confus dont les ondulations étaient à peine sensibles. Deux chasseurs, l'un avec un bonnet rouge, l'autre avec un cafetan vert, s'en approchèrent.
« Que veut dire cela ? D'où est venu ce chasseur inconnu ? Ce n'est pas celui du petit-oncle ?»
pensait Nicolas. Les chasseurs donnèrent au renard le coup de grâce, et il lui sembla de loin qu'ils restaient groupés, à deux pas de leurs chevaux, sans songer à le lier. Quelques chiens s'étaient couchés pendant que les hommes gesticulaient avec chaleur en se montrant la bête. Le corps fit entendre le signal convenu pour indiquer qu'il y avait querelle.
« C'est un des chasseurs d'Ilagin qui se querelle avec notre Ivan, »
dit l'écuyer de Nicolas. Ce dernier l'envoya à la recherche de sa sœur et de Pétia, et se dirigea au pas vers l'endroit où les valets de chiens réunissaient la meute. Il descendit de cheval et attendit le résultat de l'altercation. Le chasseur qui avait été pris à partie par l'autre s'avança vers son jeune maître, le renard attaché à la selle de son cheval. Ôtant de loin son bonnet rouge, il essayait visiblement de rester respectueux tout en étouffant sa colère. Il avait l'œil poché, mais il semblait ne pas s'en douter.
« Que s'est-il passé entre vous ? »
demanda Nicolas.
« Est-ce qu'on va les laisser chasser avec nos chiens ? C'est encore ma chienne souris qui l'a pris. Ils n'entendaient pas raison et empoignaient déjà le renard. Alors je les ai roulés tous les deux. Voilà la bête proprement ficelée. Et de cela en veux-tu ? »
ajouta-t-il d'un air farouche en tirant son couteau. Il s'imaginait sans doute avoir encore affaire à son adversaire. Nicolas, se tournant vers Natacha et Pétia, qui venaient de le rejoindre, les pria de l'attendre pendant qu'il irait tirer l'affaire au clair. Le chasseur triomphant racontait à ses camarades, plein d'une curiosité sympathique, tous les détails de son exploit. Ilagin, qui était en froid et même en procès avec les Rostov, chassait précisément ce jour-là sur les terres réservées par un long usage à ces derniers, et, comme par un fait exprès, il s'était dirigé vers le bois du rendez-vous en permettant même à son chasseur de suivre les voies de la bête que les Rostov avaient levée. Toujours extrême dans ses jugements et dans ses sentiments, Nicolas, qui ne l'avait jamais vu, mais qui tenait pour certains les actes de violence et d'arbitraire attribués à Ilagin, le détestait cordialement. Le regardant comme son plus mortel ennemi, il se dirigeait vers lui, serrant avec colère son fouet dans sa main, prêt à en venir sans réflexion aux dernières extrémités. À peine avait-il tourné le bois, qu'il vit venir à sa rencontre un gros cavalier coiffé d'un bonnet garni de castor, monté sur un beau cheval noir et suivi de deux écuyers. C'était Ilagin en personne. Au lieu de l'ennemi qu'il s'attendait à affronter, Nicolas trouva un voisin fort aimable, fort bien élevé et très désireux de faire sa connaissance. Soulevant à demi son bonnet, Ilagin lui exprima tous ses regrets de la querelle survenue entre leurs hommes, lui jura que son chasseur serait sévèrement puni pour avoir chassé avec une meute qui ne lui appartenait pas, et finit par lui proposer de chasser sur ses propres terres. Natacha, fort inquiète et craignant que cet entretien ne prît une mauvaise tournure, avait suivi son frère de loin. Elle se rapprocha en voyant les saluts qu'on échangeait de part et d'autre, Ilagine, se découvrant tout à fait devant elle, se récria sur sa grâce et assura qu'elle était la vivante image de Diane, tant par son amour de la chasse que par sa beauté. Pour se faire pardonner l'infraction commise par son piqueur, il supplia instamment Rostov de venir lancer le lièvre chez lui, dans un endroit situé à une verste de là, qui, disait-il, fourmillait de lièvres. Nicolas y consentit volontiers, et l'équipage de chasse ainsi augmenté de moitié se mit en route. Il fallut couper à travers champs. Les maîtres se réunirent, et chacun d'eux, étudiant à la dérobée les chiens de ses compagnons, tremblait rien qu'à l'idée d'en découvrir parmi eux de supérieurs aux siens, comme forme et comme flair. Rostov fut surtout frappé de la beauté d'une chienne de race pure, au corps allongé, aux muscles d'acier, au museau fin et pointu, aux yeux noirs à fleur de tête, tachetés de roux et appartenant à Ilagine. Il avait entendu vanter la vitesse des chiens de sa meute et devinait dans cette belle petite chienne une rivale à Samilka. Au milieu d'une conversation insignifiante sur les récoltes, il dit à Ilagine, en se tournant vers lui,
« Il me semble que vous avez là une bonne chienne, pleine de feu. »«
Celle-là, oui, elle est bonne, elle chasse bien. »
répondit Ilagine du ton le plus indifférent. Et cependant, pour Erza, il avait cédé à son voisin trois familles de Dvorovie.
« Ainsi donc, comte, »
dit-il, en reprenant le premier sujet de leur conversation.
« Chez vous aussi, le rendement a été assez maigre cette année. »
Puis, croyant de son devoir de lui rendre sa politesse en examinant à son tour la meute de Rostov, il aperçut Milka.
« Mais c'est vous, comte, qui possédez une chienne superbe, celle qui a des taches noires. »« Oui, elle n'est pas mal, elle a du train. Tu verrais bien. »
se dit Nicolas à part lui.
« Tu verrais bien qu'elle est chienne et Milka si nous tombons sur un vieux lièvre. »
Et, se tournant vers son écuyer, il annonça qu'il donnerait un rouble de gratification à celui qui découvrirait un lièvre au gîte.
« Je ne puis comprendre, »
reprit Ilagine,
« la jalousie des chasseurs entre eux à propos de leur meute et du gibier. Quant à moi, je jouis de tout, de la promenade, d'une agréable société, comme aujourd'hui par exemple. »
Et il souleva de nouveau son bonnet à l'intention de Natacha.
« Mais compter avec envie les peaux ou les pièces tuées, ce n'est pas mon faible, vous l'avouerai-je. Et je vous dirai même que cela me touche fort peu. C'est parfaitement juste. Qu'est-ce que cela peut me faire si mon chien n'a pas de chance ? Je n'en suis pas moins la chasse avec intérêt, et puis... »
Le cri prolongé de l'un des valets de chien l'interrompit. Debout sur une légère éminence, le fouet levé, le valet répéta son cri avec une nouvelle force. C'était le signal convenu pour dire qu'il avait devant lui le lièvre couché à quelques pas.
« Ah, je crois qu'il l'a levé, »
dit Ilagine avec une feinte indifférence.
« Eh bien, allons, donnons-lui la chasse. » « Allons-y, allons-y ensemble !»
répondit Nicolas en jetant un regard de défiance sur Erza et sur Rogaï, les deux rivaux de Samilka, qui ne s'étaient jamais mesurés avec eux.
« Et si elle allait se couvrir de honte ?»
pensait-il en avançant.
« Est-ce un vieux ?»
demanda Ilagine en sifflant à lui Erza, non sans émotion.
« Et vous, Mikhail Niknorovitch ?»
ajouta-t-il en s'adressant au petit oncle qui avait l'air fort maussade.
« Je n'irai pas me fourrer là-dedans. Vos chiens, à faire sûr, en avant-marche, ont été payés un village par tête et valent des milliers de roubles. Je regarderai pendant que les vôtres se le disputeront. Rougaï, Rougaïouchka !»
ajouta-t-il, en mettant dans cet appel toute la tendresse et tout l'espoir que lui inspirait son favori. Natacha devinait et partageait l'agitation de son frère et celle que les deux vieux s'efforçaient en vain de dissimuler. La meute et le reste de la société avançaient sans se presser. Le chasseur posté sur l'éminence n'avait pas bougé, attendant ses maîtres.
« Où est sa tête ?»
lui demanda Nicolas. Mais le lièvre, pressentant la gelée du lendemain, ne donna pas au chasseur le temps de répondre. Il fit un bond et déboula. Les chiens découplés et les lévriers descendirent en hurlant le versant de la colline et les piqueurs à cheval partirent à fond de train, les uns pour les aider à se rabattre, les autres pour les pousser dans la direction voulue. Ilagine, Natacha et le petit oncle galopaient sans même savoir où ils allaient, tantôt à la suite des chiens, tantôt à la suite du gibier, mourant de peur de manquer la chasse. Le lièvre était vieux et agile. Couchant d'abord ses oreilles pour écouter ses cris et ce piétinement de chevaux et de chiens qu'il avait subitement entourés de partout, il fit ensuite une dizaine de sauts, laissa approcher les chiens, puis, comprenant enfin le danger et choisissant sa voie, il dressa une oreille, puis l'autre, détala à toute vitesse et se blottit dans les chaumes. À quelques pas de lui s'étendait une prairie marécageuse. Les deux chiens du chasseur qu'il avait levés avaient été les premiers à prendre sa piste. Mais il en était encore assez loin lorsqu'Erza, la chienne rousse d'Ilagine, les dépassa. Arrivée à quelques pas du lièvre, elle sauta à son tour pour essayer de l'attraper par la queue, mais, manquant son élan, elle tomba et roula sur elle-même, pendant que le lièvre accélérait sa course et que Milka filait sur lui comme un trait et gagnait de l'avance.
« Miloucha, ma petite Miloucha !»
Et la voix triomphante de Nicolas retentit dans l'air. Milka semblait être au moment de le saisir, mais sa vitesse lui fit passer le but. Le lièvre s'était arrêté court. Erza, la belle chienne, renouvela aussitôt son attaque. Elle fit un saut en avant, et l'on aurait dit que, suspendue en l'air, elle mesurait de l'œil, avec prudence cette fois, la distance à franchir, afin de retomber juste sur le dos de sa proie.
« Erza, ma bonne petite Erza !»
s'écria Ilagine, en adressant à sa chienne une touchante invocation qu'Erza ne daigna pas écouter. Car, à l'instant où elle allait happer le lièvre, elle repartit de plus belle et se mit à courir sur la lisière même du champ et de la prairie. Erza et Milka, galopant de front comme deux timoniers, s'en rapprochèrent encore, mais le terrain marécageux arrêtait leur course.
« Rougaï, Rougaïouchka, affaire sûre, marche !»
s'écria une troisième voix. Et Rougaï, le chien bossu du petit oncle, s'étirant et courbant son dos comme un ressort, atteignit les deux autres, les dépassa et, faisant un effort surnaturel, tomba sur le lièvre, qu'il lança d'un coup de gueule sur la prairie, le rattrapa par un nouveau bond, le renversa et roula avec lui sur la terre fangeuse qui s'attachait à son corps par larges plaques. Les chiens et les chasseurs formèrent cercle autour d'eux. Seul le petit oncle, tout jubilant, descendit de cheval, s'approcha du lièvre et secoua en l'air sa patte droite pour en faire écouler le sang. L'émotion qu'il éprouvait donnait à ses yeux, qui allaient en tous sens, une expression effarée. Ses mouvements étaient saccadés, sa parole entrecoupée et sans suite.
« Affaire sûre, marche, voilà un chien. Il les vaut tous, et les plus chers et les moins chers aussi. Affaire sûre, marche !»
disait-il en suffoquant. Et l'on aurait dit, au regard furibond qu'il lançait autour de lui, qu'il se croyait entouré d'ennemis et que, offensé et malmené par tous, il venait maintenant de se réhabiliter d'une façon éclatante.
« Voilà les chiens de 1000 roubles. Rougaï, voici pour toi, mon vieux. Tu l'as mérité. »
ajouta-t-il en lui jetant la patte crotte qu'il venait de couper.
« Elle s'est éreintée. Elle lui a donné 3 fois la chasse toute seule. »
criait Nicolas, sans s'adresser à personne et sans rien entendre de ce qui se disait autour de lui.
« Le prendre en travers, la belle affaire !»
dit l'écuyer d'Ilagine.
Du moment qu'Erza l'avait forcé, tout chien, fût-ce même un chien de basse-cour, pouvait l'attraper. »
ajouta à son tour Ilagine, la figure empourprée et hors d'haleine par suite de sa course folle. Natacha, également excitée, poussait de son côté des cris de triomphe si aigus et si sauvages que peut-être ailleurs en aurait-elle eu honte. Mais il ne faisait qu'exprimer ses impressions et celles des autres chasseurs. Le petit oncle lia son lièvre, le jeta adroitement sur la croupe de son cheval et, sans se départir de son air rogue et maussade, s'éloigna sans proférer une parole. Nicolas et Ilagine avaient été trop froissés dans leur amour-propre de chasseurs
pour reprendre tout de suite leur air affecté d'indifférence. Et ils suivirent longtemps des yeux rougailles, le vieux chien bossu qui, l'échine crottée, marchait derrière le petit oncle avec le calme d'un triomphateur.
« Vous voyez, je suis comme tout le monde »,
semblait-il leur dire. « Mais à la chasse, c'est autre chose. Attention !» Lorsqu'après cet incident, le petit oncle s'approcha de Nicolas et s'adressa à lui, Nicolas se sentit honoré de cette marque de condescendance, malgré tout ce qui venait de se passer.